Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous recevons Marianick Larentec, qui, bien sûr, a beaucoup, beaucoup d'activités. Et au cours de cet entretien, elle va nous dire qui elle est, qu'est-ce que c'est pour elle la Bretagne, sa Bretagne à elle, et puis alors ses différents domaines d'écriture ou de musique. Alors, Marianick, qui êtes-vous ?
Alors bonjour Michel, bonjour à tout le monde et à toute l'équipe. Alors moi je suis harpiste, musicienne, et je suis aussi compositeur. J'ai cette chance-là de faire de la musique. Et autrement, je sais pas trop vous dire qui je suis.
Et quelle est votre formation initiale ? Vous avez forcément suivi des cours
oui.
Il y a déjà quelques années. Dans quel domaine alors ?
Alors, moi j'ai fait mes études à Paris, je suis parisienne. Et, enfin, je suis née à Paris. Et j'ai commencé la harpe au sein de la Thélène Blaymore chez les Scouts de France. Moi, j'ai appris mon métier aux Scouts de France, Scouts bretons de Paris. Et puis j'ai été amenée à, je suis entrée à l'école normale de musique de Paris à la classe de Madame Micheline Kahn, qui était là, une très très grande harpiste. Et puis j'ai fait 10 ans d'études comme tout le monde, enfin à l'école normale. Et un jour j'ai été appelée par la ville de Brest qui voulait faire une expérience, à savoir faire entrer la musique qu'elle appelait elle folklorique au conservatoire.
C'était quelque chose de tout à fait inhabituel, ça, non ?
Ah oui, c'était très très complètement inhabituel. Ça entrait un petit peu dans les idées du gouvernement de l'époque qui voulait un petit peu désenclaver la Bretagne. Donc il y avait déjà eu un effort du côté de Lannion avec le centre scientifique de Plumeur-Baudou. Et puis on avait dit la culture c'est un bon moyen. Alors le problème c'est que pour faire entrer un professeur au conservatoire, il fallait qu'il soit diplômé de musique. Et un diplômé de cornemuse n'existait pas évidemment. En tout cas pas chez nous, pas en France. Donc on s'est tourné vers quelqu'un qui pouvait être diplômé de musique classique et qui pouvait quand même connaître la musique folklorique, comme on disait à l'époque.
Et vous étiez les deux en fait ?
Moi j'étais encore étudiante à l'école normale, mais j'avais mes premiers diplômes et puis j'avais ma formation Blaymore.
Alors la formation Blaymore, c'est quoi alors ?
Alors Blaymore, c'était les Scouts bretons de Paris. C'est un peu difficile à définir. Hein. Il n'y avait pas que moi à Blaymore. Il y avait Christelle Noguès, il y avait Alain Stivel. Je n'étais pas toute seule à jouer de la harpe.
Que du beau monde quand même.
Ah oui. Mais à Blaymore, il y avait aussi Gwenole Hellmann. Il y avait Donatien Laurent. Enfin, vous voyez. C'est...
Ah ouais.
C'est une sacrée pépinière. Hein. Alors, vous voyez, on était entourés quand même. Je trouve que c'était intéressant parce que moi j'apprenais la musique. Alors tout le monde chantait à Blaymore en breton. Les Bretons de Paris, ils arrivaient chacun d'un bout de la Bretagne et tout le monde apportait son bout.
Ah oui, ça faisait un ensemble quand même harmonieux, c'est le cas de le dire pour la musique. Et la Bretagne pour vous, c'est quoi alors ?
Alors, moi, la Bretagne, donc je suis née à Paris dans une famille que moi j'appelle ethno-nostalgique. Parce que j'étais dans une famille de on peut dire de militants, mais c'était des militants culturels. Mon père chantait en breton, il appartenait à la KAV, il jouait de la bombarde, il jouait aussi de la cornemuse. La bombarde, c'était avant. Il jouait. Mon père, il était de Landerneau, donc il allait jouer de la bombarde dans les Monts d'Arrée, tout ça. Et puis, ma mère, elle était née à Beaubriac, mais son père était du Gauche du Morbihan. Vous voyez, chez moi, c'est un petit peu la Bretagne. Alors, quand j'arrivais dans mon 4e étage, dans le 17e arrondissement, ma foi, on était en Bretagne.
Votre Bretagne, c'est plutôt les gens, en fait. Pas que les musiciens, mais les gens en général.
Oui, et son histoire. Parce qu'à Blaymore, on ne vous laissait pas comme ça. À table, on parlait, parce qu'on mangeait ensemble. À table, on parlait en breton. On nous apprenait la culture. Moi, j'ai appris les grands mythes fondateurs, comme la ville d'Is, prophétie de Guernland, toutes les guerres, je les ai apprises à Blaymore. Hein. Et aussi avec mon père. Mm-hmm. Et donc, quand je suis arrivée en Bretagne pour y travailler, à Brest, eh bien, j'ai constaté que je n'étais pas du tout dans le pays, dans le même pays que celui du 4e étage du 17e arrondissement. Je n'étais plus à Blaymore, j'étais en Bretagne.
À l'air du large, en quelque sorte.
Ah oui, puis j'avais pas grand-chose à voir. Alors du coup, je me suis dit que la Bretagne, c'était une terre où cohabitent finalement allègrement le rêve et la réalité, et puis aussi le passé et le futur. Et ça continue. Moi, maintenant, j'habite à Lorient, par exemple, pour tout vous dire, dans le port de Lorient, qui est en centre-ville. C'est là qu'est ancré le Biche. Le Biche, c'est le dernier tonnier de Groix.
Ah oui, puis, oui, oui, Groix et les tonniers, c'est une histoire. Après, ça s'est reporté sur Lorient. Mais voilà. Les tonniers, c'est quelque chose.
Voilà, et donc le dernier tonnier de Groix est ancré à Lorient, mais à une portée d'arbalète du port de plaisance de Lorient, juste à côté. Il y a un endroit qui s'appelle la base, et c'est là que l'on voit sortir des cabinets d'architecture marine les bateaux de course qui vont préfigurer la navigation de demain. Donc c'est vraiment le passé et puis le futur. C'est le rêve et la réalité. Pour moi, la Bretagne, c'est tout ça. Et j'habite dans tout ça.
Et alors, vous avez à un moment donné décidé d'écrire aussi, en même temps que la pratique de la harpe. Et ce travail d'écriture, à quel moment l'avez-vous commencé ?
Alors, l'écriture, c'est autre chose. Ça fait partie de ma vie, c'est mon hygiène de vie. J'écris tous les soirs depuis que je sais écrire. C'est un petit peu comme ça dans ma famille. Je suis d'une famille de l'écrit. Mon grand-père écrivait aussi beaucoup en breton. Mon père écrivait dans les deux langues. Et puis, alors moi, j'écris tous les jours depuis que je sais écrire. Et donc, l'innovation chez moi, c'est pas d'écrire, c'est de publier. La première chose que j'ai publiée, c'est quand j'étais à l'université, parce que après 30 ans de pratique de l'enseignement de l'harpe celtique, il faut quand même que je vous dise, moi je suis le premier professeur institutionnel de harpe celtique. Quand je suis arrivée au conservatoire, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'instrument, il n'y avait pas de répertoire, il n'y avait pas de cursus, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait rien. Il a fallu tout construire, donc ça représente pour moi énormément 20 ans de ma vie. Et au bout d'un certain temps, je suis allée à l'université pour interroger cette pratique. Quand tout roulait bien, quand il y avait beaucoup de professeurs, quand tout marchait bien, je me suis dit, ben voilà, je vais porter un regard d'analyse sur ce travail.
Et vous étiez à l'université à quel endroit, à quelle université ?
Alors, j'étais à Rennes, je suis allée à Rennes au département de sciences de l'éducation. Et là, au bout de quelques années, j'ai eu la chance d'intégrer, en tant que professionnel associé, le centre de recherche en sciences de l'éducation de l'université de Rennes 2. Et j'ai publié à ce moment-là un livre qui s'appelle « La poétique et la musique en éducation ».
Là, il faut nous dire un peu plus sur ces thèmes-là, la poétique et l'éducation.
Et la musique en éducation. Parce que donc mon sujet, mon objet de recherche, c'était justement en musique, l'oral et l'écrit, mais pas que en musique. La tradition orale, la transmission orale, la transmission écrite, tout ça. Donc, à ce moment-là, j'ai travaillé avec des poètes, des philosophes poètes, et puis du coup, on m'a dit, mais le langage, c'est aussi le langage du corps, c'est la danse, tout ça. Donc, j'ai dirigé une publication où nous sommes, alors là, je ne sais plus combien, je crois qu'on est 8 à écrire. Donc moi j'ai écrit sur la musique, il y a des musicologues qui ont écrit sur la musique aussi, mais sur le rôle de la musique. Alors c'est le rôle du, le regard du musicien et le regard du musicologue, c'est pas du tout le même, on dirait que qu'ils ne parlent pas de la même chose. J'ai travaillé avec des poètes, j'ai travaillé avec des danseurs, et nous avons publié un livre que j'ai co-dirigé avec le directeur du laboratoire, qui s'appelle Paul Taylor, et on autour de ce thème-là. La poétique et la musique en éducation. En quoi ça pouvait être, non pas générateur, mais fondateur dans l'éducation de s'occuper de ces deux choses-là.
C'est la musique qui accompagne la poésie ou c'est la poésie qui accompagne la musique?
Pour moi, je pense que la poésie est une musique. Donc, c'est quand je travaille avec les poètes, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les poètes et je travaille toujours. Et je trouve que c'est plutôt de la musique de chambre que de l'accompagnement. Mmh.
C'est pas seulement le rythme, c'est aussi la musicalité des mots et des phrases.
Ouais, des ambiances, des... oui, c'est un peu tout ça. Je trouve que ça se mêle aussi bien, parce que je fais de la musique de chambre avec une violoniste en ce moment, en musique classique, hein, on travaille sur la musique romantique et musique impressionniste, c'est-à-dire de grosso modo, on va de Schubert à Fauré.
Et en plus, ces termes-là, romantique, impressionniste, on croit entendre de la littérature ou bien de la musique, effectivement, ouais.
Mais moi, j'ai été biberonnée à cette littérature. Hein. Vous savez, moi, je suis d'une époque où le téléphone n'existait pas. Donc, il fallait déjà écrire tout le temps. Quand on voulait être en contact avec ses amis, ben, on écrivait. Moi, j'écrivais tous les jours. À Paris, il y avait 3 distributions de courrier par jour. Donc, j'écrivais beaucoup. Comme tout le monde. Pas plus ni moins, mais beaucoup. Et puis, j'ai énormément lu. J'étais absolument une inconditionnelle de Balzac, par exemple. Je me cachais pour lire Balzac. Et le premier poète, la première fois que j'ai eu à accompagner de la poésie, j'étais encore étudiante à l'école normale et je savais pas ce qu'on allait me demander. Je suis arrivée au lieu du rendez-vous, c'était à l'hôtel Le Monceau à Paris, et il s'agissait d'accompagner Jean Marais dans un récital Jean Cocteau.
Pas n'importe qui, quand même, hein, ni l'un ni l'autre.
C'est mon premier repère de poète, ça, figurez-vous. Ça ne s'oublie pas, une affaire comme ça. Alors, vous savez, quand les poètes me demandent si j'ai un peu d'expérience, si ils ont peur, quelquefois, d'être accompagnés, moi, je ne m'impose jamais, hein, mais c'est quand on me demande, alors je leur explique ça. Ça fait longtemps, hein. Mais après, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre-Jacques Asselias. Et puis avec Yvon Lemaine aussi, beaucoup. J'ai travaillé 20 ans avec Yvon Lemaine. Avec des conteurs, je travaillais aussi plus de 20 ans avec Alain Le Goff. Enfin, vous voyez, les mots, pour moi, sont musique. Donc il ne s'agit pas de les accompagner, il s'agit de faire un tout entre les mots et la musique.
Et c'est eux qui ont leur texte, et vous, dans ce cas-là, c'est de l'accompagnement? Ou bien alors, eux, ils... Il s'intègre aussi dans votre musique.
Alors, ça dépend un peu. Avec Alain Le Goff, ça a toujours marché dans les deux sens. Les poètes sont des gens qui tiennent beaucoup à leurs mots. Moi, je les comprends. Hein. Donc, j'accompagne pas, mais je construis je sais pas comment vous dire, des phrases musicales qui vont s'intégrer dans leur texte.
Et vous faites ça, quoi, sur le moment, c'est presque de l'improvisation, ou bien alors vous préparez ça à l'avance?
Ça dépend. En ce moment, je travaille avec Philippe Dagorne et nous répétons quand même souvent. Quand j'ai travaillé avec Alain Le Goff, on a commencé à répéter de temps en temps, mais on n'a jamais fait ce qu'on avait répété. Moi, par contre, je me suis beaucoup imprégnée, parce qu'il n'y a pas que le texte, il y a aussi la voix, les gestes, il y a tout le langage, en fait. Toutes les expressions du visage, tout ça, ça rentre dans la musique. Hein.
Et Yvon Le Maine est connu, il vient d'être distingué récemment, là, au niveau de la poésie.
Oui.
Et avec Yvon Le Maine, c'est pareil, c'est un travail de concert, j'allais dire, un travail en communion.
Ah oui. Avec Yvon, alors, Yvon, c'était... J'ai beaucoup lu, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Et puis, il a une, Yvon, c'est un comédien. C'est un, d'ailleurs, Le Goff aussi, Philippe Dagorne aussi, ce sont des comédiens. C'est-à-dire qu'ils donnent à leur poésie une puissance que mon rôle à moi, ça doit être probablement de sublimer cette puissance. La puissance des mots et la puissance de la voix.
Et la poésie, là, vous montrez très bien que la poésie est musique également. Et peut-être avant le reste.
Ah, c'est un art de l'oral, la poésie, hein, pour moi.
Et alors, vous avez publié des livres, vous en parliez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez comme ouvrage récent dont vous aimeriez nous parler ?
Alors, donc, j'ai publié ce livre-là, après j'ai publié sur la harpe, j'ai publié des contes et nouvelles philosophiques, mais plus récemment, j'ai publié, à la demande de Yannick Auffray, qui est le directeur de Groix Éditions, j'ai publié un livre sur Alain Gégou. Alain Gégou, c'était un poète aussi, que j'ai accompagné, et c'est un grand poète, il a lui-même publié 32 ouvrages, et il n'avait jamais su choisir entre vivre de la poésie ou vivre de la mer. Alors, comme il n'a pas choisi, il a fait les deux en même temps, comme on dirait maintenant, et il écrivait soit le soir en rentrant, il était marin-pêcheur à Quéroman, là, au port de Lorient, port de pêche de Quéroman, de Lorient, les gens sont très très fiers d'avoir ce poète-là dans leur rang. Et il écrivait quand il rentrait le soir. Alors moi, il m'a dit qu'il écrivait depuis le large. Et puis, il a déclaré à un journaliste qu'il n'écrivait jamais depuis le large. Donc là, je laisse les gens choisir. Donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle « La poésie n'aura pas chanté en vain ». Alain est mort en 2013. Et donc c'est un livre qui lui rend hommage et qui raconte sa vie et puis son œuvre à partir du bout de mes cordes.
Et vous dites il allait en mer, en balade ou bien pêcher ou travailler ?
Ah non, il était patron de pêche. Hein.
Voilà.
Hein, il était patron de pêche. Il était ancré au port de pêche de Lorient. Il allait à la criée, il partait à 4h du matin avec la marée. Enfin bon, c'était son métier, c'était patron de pêche.
Patron de pêche et poète.
Et poète, voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, j'ai écrit ce livre et ça a donné lieu, figurez-vous, à un film qui porte le même nom, un film de 58 minutes.
Oui.
Qui a été commandé par la ville de Languidic et qu'on peut trouver sur Internet.
Et alors, quand on met en film un ouvrage comme ça, ça ne doit pas être très simple d'une part. Et est-ce qu'on garde la même valeur poétique quand on voit les images ?
Alors, moi j'ai réécrit un texte qui est dit par le poète que j'accompagne actuellement, il s'appelle Philippe Dagorne, comme je vous disais, qui est aussi comédien. Moi, je trouve que c'est encore plus poétique que le livre, parce que dans le livre, j'ai mis des extraits de la poésie d'Alain Gégou, et dans le film, nous avons mis des textes en entier. Et nous tournons maintenant avec le spectacle qui s'appelle aussi « La poésie n'aura pas chanté en vain ».
Le film, c'était des acteurs qui avaient été choisis par le réalisateur, bien entendu ?
Non, c'était Philippe Dagorne, récitant, et moi qui accompagne.
Et donc on voit l'écran dans ce film.
Oui.
Et alors maintenant, là, vous faites quelque chose de complet, si j'ose dire, à la fois la poésie, oui. la musique, le oui. film, et maintenant, vous dites le spectacle.
Oui.
Un spectacle vivant, si on peut dire, sur scène.
Ah oui. Oui, c'est-à-dire que le film, c'est le film de notre spectacle. C'est difficile à dire. Hein.
Oui, oui, mais on voit ce qu'il en est. Alors, le livre, donc, Alain Gégou. Et puis, alors, un autre ouvrage, peut-être ?
Oui, alors, beaucoup plus léger. Yannick Auffray, l'éditeur de Groix Éditions, le directeur de Groix Éditions, il m'a demandé si je voulais pas lui proposer autre chose. Et à ce moment-là, j'ai fait un petit roman policier qui dévoile les coulisses du Festival Interceltique. Ça s'appelle « Meurtre au Festival Interceltique ». Et donc ça se passe au sein de l'orchestre symphonique du Festival Interceltique. C'est un festival qui existait il y a 20 ans, qui n'existe plus maintenant. Le Festival Interceltique a beaucoup changé. Il y a des choses qui sont mieux, d'autres qu'on regrette un petit peu. Mais notamment l'orchestre symphonique, moi je le regrette profondément, il n'existe plus. C'est l'Orchestre de Bretagne qui a pris la place, c'est pas mal, mais enfin c'est pas la même idée. Dans ce petit ouvrage qui est vraiment un petit ouvrage léger, facile à lire, il y a des jeunes qui l'ont lu, je décris à la fois les coulisses du festival, puisque ça se passe 3 jours avant. Donc c'est l'effervescence hein, au festival.
Alors le Festival Interceltique, je le dis pour nos auditeurs nombreux, c'est le Festival Interceltique de Lorient,
oui.
Qui dure depuis très longtemps. C'est le rassemblement, en quelque sorte, des musiques celtes et en même temps un peu des peuples celtes aussi, avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs sur une semaine. C'est vraiment le grand spectacle de la Bretagne culturelle, en musique notamment.
Oui, c'est ça. Et on oublie aussi qu'il y a un volet économique très très important que je décris aussi là-dedans.
Alors le livre là s'appelle ?
Alors le livre s'appelle « Meurtre au Festival Interceltique » chez Groix Éditions.
Eh bien dis donc, il y a du danger à aller au festival.
Ah bah oui, ça c'est ça. Ah oui, mais quelquefois, hein, il y a un poète qui a dit « Si tu aimes la vie, risque-la
». Risque là, ben c'est une bonne formule. Alors un autre ouvrage peut-être ?
Alors là j'en ai deux autres en préparation. Yannick Auffray m'a demandé d'écrire une histoire de l'Armor Plage, puisque j'habite à l'Armor Plage.
Un fort bel endroit ma foi, l'Armor Plage.
Pardon ?
Un fort bel endroit, hein, l'Armor Plage.
Oh là là, il fait bon vivre ici, ça c'est sûr. Hein. Et c'est une commune qui est née en 1925, donc c'est récent. Et donc, je suis en train d'écrire un ouvrage, je viens de commencer, qui s'appellera Almanach historique et culturel de l'Armor Plage. Donc vous voyez, c'est tout un programme, mois par mois, tout ce qui s'est passé depuis 1925, de marquant. Parce que c'est une terre d'artistes à l'Armor Plage. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'artistes qui y ont habité. Par exemple, il y a une grande danseuse étoile qui habitait l'Armor Plage, qui vit maintenant à Lorient. Il y a eu des pianistes, il y a énormément de peintres. On a des grandes expositions. On a en ce moment l'exposition Adolphe Beaufrère. Donc, Yannick m'a chargé de faire cet almanach qui ne va pas sortir tout de suite. C'est un projet pour 5 ans.
Ah oui, 5 ans quand même.
Voilà.
Et alors, la notion d'almanach, c'est une notion amusante, mais sérieuse à la fois. Et
oui.
Les almanachs, ça voulait tout dire dans la tête des gens.
Oui, oui, c'est pour ça que c'est un grand projet qui demande énormément de recherche. Vous voyez, il faut que je retourne un petit peu à la bibliothèque universitaire, dans les bibliothèques d'archives, etc. dans les archives. Ça, c'est un énorme travail de recherche. C'est pour ça que je lui ai dit, moi, je ne pouvais pas faire ça en 5 minutes. Hein. Et d'ailleurs, et c'est quelqu'un de très sérieux, Yannick. Hein.
L'autre projet, vous parliez tout à l'heure de deux projets. Donc, il y a celui de l'Armor Plage. Oui. Et puis l'autre, alors ?
Alors, l'autre, c'est un autre roman policier, celui-là est presque fini, qui se passe au port de commerce de Lorient, dans le milieu des sans-abri, qui est un milieu que je connais bien aussi, parce que je suis à la maraude du SAMU social depuis maintenant quasiment qu'elle existe à Lorient, depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc c'est pour décrire des atmosphères un peu.
Nous approchons de la fin de l'émission. Oui. Vous avez peut-être quelque chose que vous souhaiteriez ajouter à notre conversation ?
Eh bien, écoutez, je trouve que habiter en Bretagne, c'est vraiment, c'est plus qu'un rêve, c'est une belle réalité.
Et une réalité à la fois poétique et ouais. Musicale. Il me reste à vous remercier de votre participation à cette émission. Et puis les nombreux auditeurs auront appris beaucoup, beaucoup de choses sur la poésie, la musique et puis toutes vos activités. La musique, disons, la harpe aussi, parce que c'est votre spécialité. C'était
ah oui.
Un auteur, une voix avec écrivainbreton.org. Était avec nous Marianick Larentec.
Merci à tout le monde.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.